l'écoute d'RCF Nescaut d'Azur, nous retrouvons tout de suite le père Vincent Poltocoli dans votre émission Culture et Spiritualité. Père Tocoli, bonjour.
Bonjour Alexia.
Nous poursuivons notre chemin sur l'origine du christianisme, une série proposée par Gérard Mordilla et Jérôme Prieur, sur laquelle vous nous proposez de méditer. Aujourd'hui, nous allons parler de Paul, Paul surnommé l'Avorton. Alors, ma première question, ça va être comment connaissons-nous le personnage finalement de cet apôtre Paul ?
Oui, le mot personnage convient tout à fait, et qui dira jamais qui était Paul ? En ce sens qu'il est multiple, immense, ce sont ces êtres qui traversent l'histoire et qui, avec eux, déclenchent à la fois des enthousiasmes, des haines, des répulsions, des interprétations multiples. Voilà, c'est ça, Paul. Alors, comment connaissons-nous ? Eh bien, là encore, on le connaît par deux biais différents. Le premier, dans toujours la chronologie, c'est celui qui nous apparaît dans les épîtres, dans les lettres qui lui sont attribuées, et où il se proclame toujours apôtre, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, choisi par Jésus, etc., etc. Il revendique d'avoir été appelé par Jésus de Nazareth, alors que au niveau de l'histoire, il ne l'a pas connu, mais au niveau de sa conversion, il dit l'avoir entendu dire « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Mais qui es-tu donc ? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Et puis ensuite, il aurait passé du temps dans un désert d'Arabie, où il aurait eu ses révélations. Je connais un homme, était-ce avec son corps, je ne sais, Dieu le sait, et qui est rentré en contact avec Jésus ressuscité. C'est lui qui parle, c'est le récit de sa vocation, vous l'apprenez, vous ne l'apprenez pas, vous lui faites confiance ou pas, c'est votre problème. Voilà, c'est lui qui raconte, il n'y a aucune preuve de ce qui s'est passé. Donc d'une part, il y a ça, il y a les épîtres, les lettres dont nous apprenons le caractère, le comportement, le caractère entier, certains domaines d'intolérance, les limites de ce qui est sa vision du monde, et des femmes en particulier, mais là il partage tout à fait l'opinion de l'époque où la femme n'existe pas et elle doit se taire et elle embête en fait, hein, pour être clair. Et d'autre part, il y a ce qu'en dit Luc. Luc a été à un moment donné le compagnon de Paul, au point que vers la fin des actes, entre le chapitre 15 et la fin, Luc passe du « je », il passe au « nous », comme s'il accompagnait Paul dans certains de ses voyages, ce nous savons qu'il l'a fait. Donc nous avons affaire à une double source, celle de Paul lui-même, et celle d'un témoin oculaire de sa vie, de compagnon de voyage et de rédacteur des Actes des Apôtres.
Alors, vous avez justement parlé des épîtres de Paul. Alors, celle-ci s'accorde-t-elle à la vision de l'histoire transmise par les Actes des Apôtres ?
Bien, ce que fait Luc, qui est médecin, d'après la tradition, qui est donc quelqu'un, on dirait maintenant, qui a un bac plus 6, hein, qui a fait quelques études, qui ne dit pas n'importe quoi, qui va écrire à la façon dont on écrit à l'époque. Donc, cette vision-là, c'est celle d'un Paul qui constitue le pendant centrifuge de l'église qui est en train de se construire à Jérusalem, et l'église de Jérusalem c'est plutôt le pendant centripète, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire que Paul va vers l'extérieur, tandis que l'église de Jérusalem se concentre vers l'intérieur. Alors oui, ce que dit Luc dans les Actes des Apôtres, je répète, la deuxième partie des Actes, vers le chapitre 14, je crois, jusqu'à la fin, correspond tout à fait, dans la description qu'il en donne, à l'activité de Paul, qui va d'église en église. Je répète, regardez le circuit, hein, Salonique, si je fais le tour, Corinthe, Athènes, Éphèse, Colosse. Nous passons de part et d'autre de la mer Égée, par bateau ou par la terre, quand il montera là-haut pour aller à Philippe. Hein, tout à fait. Philippe, c'est le nœud d'autoroute, enfin de voie romaine, qui se trouve au nord de Salonique, et où on passe précisément de l'Europe à l'Asie, par l'Hellespont, qui signifie la mer grecque. C'est par là que l'on passe. Donc oui, ça correspond en gros. Maintenant, dans les détails, il est évident que quelqu'un qui raconte sa propre existence et d'autres qui racontent l'existence d'un autre, mettez deux personnes devant le même accident de voiture à Carabassel, vous aurez deux discours différents du même accident. Et chacune des personnes sera tout à fait honnête.
Alors justement, quelles sont les informations que l'on peut tirer de ces épîtres de Paul ?
Mais on peut tirer deux types d'informations sur Paul lui-même et sur la façon qu'il a travaillé. Sur Paul lui-même, nous avons quelqu'un qui est à la fois écrivain, artiste, poète, dramaturge. Nous avons un type très doué. Nous avons quelqu'un qui est convaincant, enflammé, plein d'arguments, très spécieux parfois, quand il veut démontrer aux Juifs, justement, à partir des évangiles, à partir des, excusez-moi, de l'Ancien Testament, la véracité de ce qu'il dit. Il est un bon pharisien, bibliste, docteur de la loi, et puis scribe. Enfin, il sait parler. Les raisonnements rabbiniques de Paul, faut suivre. Mais comme faut suivre à l'heure actuelle, les raisonnements rabbiniques de mes amis juifs, avec qui je fais des conférences des spiritualités du monde. Donc sur la personne de Paul, un être multiple, ambigu, ambivalent, il a, paraît-il, quelque chose qui le tracasse, une écharde dans la chair, de quel type elle est, est-ce que c'est un doute, est-ce que c'est une maladie physique, est-ce que c'est une tendance, certains ont parlé d'homosexualité, on peut prêter tout aux riches, et plus c'est riche, plus le résultat sera extraordinaire. Donc on a affaire à tout ça, un personnage multiple, sombre parfois, fougueux, ombrageux, et puis tendre, et puis voilà. Mais fier, fier. Et de l'autre côté, nous avons affaire à l'organisation des communautés. C'est lui qui parlera, le premier, des presbytéroi, qui signifie en grec « plus ancien ». Mais pas de l'âge, c'est ce qu'on se trompe toujours. C'est ça qu'on met, quand on fait un cardinal qu'on veut mettre 85 ans, comme ça on est sûr qu'il votera plus, c'est pas ça, être presbytéros. C'est être presbytéros le plus ancien dans la foi. C'est-à-dire être venu au christianisme, à la foi en Jésus-Christ, plutôt que pas avoir 15, 20 ans, 25 ans et être depuis toujours dans le christianisme. Alors quelqu'un qui en a 60, etc., ne l'est que depuis avant-hier. Le presbytéros, ce sera pas celui qui a 60 ans, celui qui aura 40 ans. Voilà. Donc cette notion d'ancien dans la foi, c'est lui, de même ce qui va devenir les évêques. Quelqu'un qui va surveiller un peu, épiscopos, ça veut dire qui surveille. Scopaine, c'est regarder, et puis au-dessus. On a la notion déjà que dans les communautés qui sont un peu plus grandes, il faut peut-être quelqu'un qui surveille l'ensemble de ceux qui. Voilà, c'est de lui. La charité entre les communautés, d'apporter de l'argent à l'église de Jérusalem, de faire une collecte. À l'intérieur de l'ensemble, le denier de l'Église, si vous voulez, hein, qui est là-dedans. Donc nous avons affaire à quelqu'un, et surtout, c'est le troisièmement, c'est au niveau de la théologie. C'est-à-dire, le mot n'existe pas. C'est-à-dire d'expliquer, de démontrer, de prouver, à force d'arguments de type rabbinique, la divinité de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, la rédemption, la liberté, le salut, la prédestination, enfin tous des thèmes qui vont être pris tout au cours du christianisme et qui constitueront aussi bien la théologie dite catholique que les hérésies, les schismatiques, etc., comme Luther qui va interpréter de façon trop unilatérale d'après l'Église catholique la théorie de la prédestination dans l'Épître romain. Donc Paul demeure une source, encore maintenant, inépuisable et inépuisée, de ce que l'on peut encore réfléchir et expliquer du mystère de Jésus de Nazareth.
Nous venons de parler là-dedans des épîtres de Paul, donc de ses écrits. J'aimerais savoir comment les actes des apôtres s'emparent-ils de la figure de Paul.
Eh bien, comme je l'ai déjà suggéré, celui qui met au point les actes des apôtres et qui s'appelle, d'après la tradition, Luc, disons qu'on attribue au médecin Luc la rédaction des actes des apôtres, c'est peut-être aussi toute une équipe qu'il y avait autour de lui, enfin, peu importe. Là-dedans, il y a vraiment, sinon l'opposition, du moins la mise en face et en contraste d'un côté comme de l'autre. D'une part, l'Église de Jérusalem même, qui est, je répète, centripète, elle se tourne autour d'elle, c'est les Juifs, les Hébreux, etc. Elle admet quelques hellénistes, je l'ai expliqué dans une des précédentes émissions, d'une part, et d'autre part, une Église qu'on pourrait appeler à la fois missionnaire et charismatique. Missionnaire parce qu'elle s'en va sur toutes les routes maritimes et terrestres de la Méditerranée orientale, entendez les deux rives, la grecque et la turque, qui bordent la Méditerranée, d'une part, et d'autre part missionnaire en ce sens qu'elle va formuler le kérigme, c'est-à-dire la foi, le cœur de la foi. Kérigme, kérigma, c'est le contenu de l'annonce du héros qui vient dire quelque chose. Le garde-champêtre du village qui sonne et qui dit « Avise à la population !» Et puis il dit ce qu'il a à dire que tout le monde entend. Et puis il va jouer un coup de tambour. Ben, c'est ça le kérux. Le kérux, c'est celui, le héros. Et le kérigme, c'est ce qu'il dit. Eh bien, il a mis au point, pour les nécessités de la cause, une façon de présenter Jésus de Nazareth, et c'est ce qu'il annonce un peu partout. D'ailleurs, il y a un rapport étroit, faudrait plus de temps pour le démontrer, entre le kérigme martien, donc celui de Saint Marc, de le premier évangile, et le kérigme de Paul. C'est-à-dire, le kérigme de Marc, c'est Jésus de Nazareth, donc l'homme, le Messie, donc l'attente des Juifs et de tout le monde, le Fils de Dieu, qui est donc la révélation et la divinité du Christ, d'une part, soutenu par la triple annonce qu'il y a dans Marc, il faut que le Fils de l'homme soit livré, qu'il meure et qu'il ressuscite. Nous avons cette même structure dans la théologie paulinienne de ce Jésus de Nazareth, qu'il n'a pas connu sur la terre mais dans sa vision, le Messie, il va le prouver aux Juifs, surtout dans l'Épître aux Romains et puis ailleurs, et troisièmement, le Fils de Dieu qui est donc la foi qui est là. Nous avons quelque chose, et ce n'est pas étonnant de la mesure où le jeune Marc, d'après la tradition, est allé avec Paul d'abord, et puis ensuite trouvera insupportable ce type multiple et certainement terrible, il a quitté pour aller avec Pierre. Marc est celui, certainement, le jeune Marc est l'héritier des deux sensibilités religieuses par rapport à Jésus de Nazareth.
J'aimerais revenir quelques instants, Père Tocolis, sur la vie de Paul lui-même. Oui. J'aimerais savoir si Paul a été converti sur le chemin de Damas.
Ben oui, de Damas. Damas étant un grand pape, sur le domaine de Damas. C'est ce qu'il dit, je vous ai dit déjà tout à l'heure, il faut le croire ou ne pas le croire. Ça c'est selon, moi j'y crois. Je veux dire, je crois, non pas la mise en scène telle qu'elle est, parce que chacun met en scène sa propre existence, mais qu'il lui arrivait certainement un coup à le faire tomber de cheval, il était à cheval peut-être, bref, en tout cas, le jeter par terre, on dirait il est tombé sur le cul, hein, pour être très clair, il est arrivé quelque chose, certainement, et ce quelque chose, il s'en est jamais remis. C'est-à-dire de passer justement de la persécution des chrétiens à non seulement à les enjoindre de suivre, mais en même temps de devenir le prédicateur par excellence. Donc, le chemin de Damas, c'est ce que ça signifie à l'heure actuelle dans notre vocabulaire.
Alors, j'aimerais simplement terminer cet entretien avec une question. Si Paul est apôtre au même titre que tous ceux qui ont connu Jésus de son vivant?
Alors, au même titre, c'est ce qu'il revendique. En même temps, il se traite d'avorton, c'est-à-dire le dernier, lui qui a été choisi en dernier après tous les autres. Donc il y a une espèce d'ambivalence dans le titre d'apôtre. Si Jésus de Nazareth a choisi dans l'espace-temps les apôtres, ce qu'on appelle les douze, il n'a pas choisi dans l'espace-temps Paul, puisque c'était quand Jésus de Nazareth était mort et ressuscité que Paul est venu à la foi. Donc à ce niveau-là, c'est à la fois un apôtre, appelé par Jésus de Nazareth d'un côté pour les autres, par Jésus de Nazareth, fils de Dieu, de l'autre côté, c'est-à-dire que les apôtres apprenaient à le reconnaître et Jésus s'est révélé à lui, d'après ce que dit Paul. Donc, au même titre, oui, quant au contenu, au même titre, non, quant à l'événement. L'événement a été différent. À ce titre-là, nous sommes très intéressés parce que tout apôtre de Jésus-Christ, depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et donc il n'a pas connu dans le temps et dans l'espace, est un apôtre de Jésus-Christ au même titre que Paul, homme ou femme.
Père Tocolis, merci. Aujourd'hui, nous en avons su un petit peu plus sur la vie de Paul, Paul qui se surnommait lui-même l'avorton. C'était votre émission Culture et Spiritualité sur l'origine du christianisme, d'après la série de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur. Vous étiez à l'écoute de RCF Nice Côte d'Azur. Bonne continuation avec nos programmes.